Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro de Métropolez-vous. Un salut tout particulier à ceux qui découvrent cette émission. Voici donc que 2020 touche à sa fin, ce que personne ne devrait regretter en espérant que 2021 commencera sous de meilleurs auspices. Cette année pénible et sombre sur bien des plans a remis sur le devant de la scène le respect de certaines mesures sanitaires, mais aussi quelques enjeux de santé publique. Il en est un qu'il convient de ne pas oublier en ces temps d'épidémie, c'est celui du retraitement des eaux usées et de leur assainissement, à la fois cruciaux pour notre santé et pour l'environnement. Inutile de préciser que dans une métropole de la taille de Toulouse, la quantité d'eau usée à collecter, à retraiter et à assainir est considérable et qu'elle nécessite un système et des moyens très importants, donc très coûteux. C'est d'autant plus vrai lorsque la population de la métropole en question augmente chaque année dans de fortes proportions, induisant un accroissement des eaux usées. Comment et par qui la collecte et l'assainissement de l'eau sont-ils assurés dans la métropole toulousaine? Ce service a-t-il connu des évolutions et des améliorations ces dernières années? D'autres sont-elles en cours? Il se trouve qu'un nouveau service de l'eau métropolitain a été mis en place au début de l'année 2020. Ce numéro a pour but de vous le faire découvrir. Il est donc consacré au fonctionnement et aux missions du nouveau service de l'eau de Toulouse Métropole. L'eau et son assainissement sont justement une compétence métropolitaine de longue date et j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission Robert Medina, le vice-président de Toulouse Métropole qui en a la charge. Bonjour monsieur et merci d'avoir répondu présent. Depuis 25 ans, vous êtes également maire de Mondouzil, la commune la moins peuplée de la métropole avec ses 241 habitants, je crois. Alors, on va commencer par faire mieux connaissance avec vous. Je vais vous demander de dire quelques mots sur votre parcours, sur ce qui a motivé votre engagement en politique et sur les raisons qui vous ont amené à prendre en charge la vice-présidence de cette compétence eau et assainissement de Toulouse Métropole.
Oui, bonjour. Je suis maire de Mondouzil, vous l'avez dit, depuis 1995, ce qui m'a donné envie de m'engager en tant que maire. Vous savez que maire est l'anagramme du mot aimer. Ben c'est un peu ça, c'est rendre service, c'est être proche de mes administrés, c'est être là, présent. Vous savez, être maire d'une petite commune comme Mondouzil, c'est une indemnité de l'ordre de 600 euros par mois. Voilà, donc on ne fait pas ça pour faire un avenir. J'étais chef d'entreprise, j'avais une entreprise sur Mondouzil, je gérais ma commune en même temps.
Alors, la compétence eau et assainissement, est-ce que c'est un domaine qui vous intéresse tout particulièrement, peut-être pour des raisons professionnelles, ou est-ce que c'est tout simplement les enjeux environnementaux qu'il y a derrière, qui vous sont chers?
Alors oui, déjà, je me suis séparé de mon entreprise en 2014, je l'ai vendue, donc je suis retraité aujourd'hui, et je me suis rapproché de Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, pour lui dire que j'avais envie de m'investir un petit peu plus. Et il m'a demandé dans quel domaine, l'eau et l'assainissement, parce que de façon environnementale, bien sûr, c'est quelque chose d'important. Ça n'a rien à voir avec la profession que je faisais, puisque j'étais dans le commerce international et dans l'art de la table.
On va regarder maintenant d'un peu plus près cette compétence métropolitaine de l'eau et de l'assainissement. Est-ce qu'elle recouvre le seul aspect de la collecte, du retraitement et de l'assainissement des eaux usées, ou est-ce qu'elle inclut tout le cycle de l'eau, ce qu'on appelle le cycle de l'eau en général ?
Elle inclut le cycle de l'eau en général, puisqu'elle regroupe à la fois l'assainissement, l'eau potable, mais aussi l'assainissement du pluvial, donc l'assainissement des eaux usées, l'assainissement du pluvial, et aussi tout ce qui est incendie, les bancs d'incendie.
Est-ce qu'on peut préciser maintenant les différentes missions qui sont assurées dans le cadre de la compétence eau et assainissement? En fait, quel est votre rôle en tant que vice-président?
Alors, mon rôle, c'est de dynamiser au maximum les équipes du cycle de l'eau pour les amener à réaliser ce que nous avons projeté de faire sur la métropole au niveau environnemental, au niveau amélioration de la qualité de l'eau, des odeurs. Donc, il y a tout un programme. Je suis là pour vérifier, pour essayer de dynamiser toutes ces choses-là pour qu'elles soient réalisées, bien sûr.
Et d'harmoniser sans doute le fonctionnement entre les différents services, parce que c'est sûr. Très compliqué le cycle de l'eau, on va y venir. Mmh. Alors comment c'est organisé justement, comment ça fonctionne la collecte des eaux usées dans la métropole? D'abord, il y a combien de kilomètres de réseau? Ça doit être énorme.
Alors c'est très important, Toulouse Métropole, c'est pour l'eau et l'assainissement, c'est 2530 kilomètres de réseau d'eau usée. Toulouse Métropole traite, Ginestous traite les bouts de 17 stations d'épuration. Beaucoup sont directement branchés sur Ginestus, donc c'est très très important. C'est, je crois, alors j'ai peur de vous dire une bêtise, mais je crois que c'est 160 000 mètres cubes d'eau traitée par jour. C'est énorme puisque la station d'épuration, on traite les eaux usées de 780 000 habitants sur toute métropole et la station Ginestus peut en accepter 950 000 équivalents habitants.
L'entretien est aussi réalisé par les services de la métropole.
Absolument, donc, il y a des contrats. Aujourd'hui, l'assainissement est géré par Suez et par sa société Asteo. Une partie de cet assainissement est gérée par Asteo et 65% du réseau est géré par Toulouse Métropole.
17 stations d'épuration, toutes sur le territoire de Toulouse Métropole. Il y a des communes qui en ont, d'autres qui n'en ont pas. La plupart sont à Toulouse ou c'est vraiment disséminé sur l'ensemble du territoire métropolitain ?
Non, il y a des communes, il y a des branchements qui se font hors métropole, très peu, mais quelques-uns. Mais la plupart des autres stations sont sur Toulouse. Hein. Mais évidemment, elles recueillent pour certaines les eaux, par exemple Castelnau d'Estrettefonds, qui n'est pas dans la Toulouse Métropole. Voilà, c'est des eaux qui viennent sur la station d'épuration de Saint-Jory, je crois.
La quantité d'eau usée, vous avez parlé de 160 000 mètres cubes, c'est ça, par jour ?
Oui, c'est ça.
Est-ce que c'est corrélé à une population, ça ? Quand la population augmente, inévitablement, les eaux usées, la quantité d'eau usée à retraiter augmente elle aussi.
Ben oui, on parle d'équivalent habitant. C'est-à-dire que 17 unités de production de dépollution traitées sur Ginestus, c'est 1 200 000 équivalents habitants.
Il y a encore de la marge, si vous voulez dire, par rapport aux 780 000
aujourd'hui. Oui, absolument. Il y a encore de la marge, donc aucun problème.
On a le coût par habitant du retraitement des eaux usées, forcément, j'imagine. Je serais curieux de connaître son évolution. Alors, voir si ce coût lui-même est stable ou s'il a tendance à baisser parce qu'on on améliore tout simplement le service.
Pas non seulement parce qu'on améliore le service, mais parce qu'on a mené, on a géré l'année dernière une étude pour mettre en concurrence une délégation de services publics avec la régie. Et finalement, on a obtenu, grâce à la délégation de services publics, une eau très peu chère, donc moins chère que ce qu'aurait été la régie, et puisque cette eau est une des moins chères de France. Aujourd'hui, l'eau et l'assainissement coûtent 2,91 euros par mètre cube à chaque habitant, 2,91 euros le mètre cube. Une partie, je crois que c'est 1,53 pour l'eau et le reste pour l'assainissement. Ceci, c'est une étude qui est faite pour 120 mètres cubes, voilà.
Les gros producteurs d'eau usée, qui sont-ils ? Est-ce que ce sont surtout les particuliers ou est-ce que ce sont surtout les entreprises ? On a la part hein, sur un pourcentage.
C'est 90% à peu près les particuliers et 10% les entreprises. Voilà donc, oui, les entreprises sont négligeables. Il n'y a pas d'entreprise polluante dans la métropole.
Donc si on veut jouer sur la quantité d'eau usée produite, c'est auprès des particuliers qu'il faut faire des démarches de sensibilisation. Les composants qu'on trouve dans les eaux usées, ce sont lesquels essentiellement ? Alors il y a beaucoup de détergents, je suppose, mais il y a quoi ? Il y a des rejets organiques ?
Il y a un peu de tout. On trouve, dans les boues de Toulouse Métropole, il y a effectivement un petit peu de produits chimiques. Alors, évidemment, des détergents, des rejets organiques, des médicaments. La composition d'une eau usée, c'est des matières en suspension, des matières organiques qui est plutôt du carbone, de l'azote, du phosphore. En très faible concentration, nous pouvons nous retrouver diverses molécules et métaux. Il y a une police des réseaux qui est chargée de vérifier effectivement que l'épuration est parfaite.
Qu'est-ce qui coûte le plus cher à retraiter dans tout ça ? C'est, en fait, on ne sait pas trop
Non, parce qu'il y a un cycle de traitement qui traite absolument tout ça. L'eau qui est rejetée dans la Garonne, après, est traitée à 90-95%.
D'accord, donc voilà. Ce qui sort est retraité
parfaitement, et on est dans les normes.
Presque à 100% voilà. Qui sont imposées aujourd'hui et qui sont assez drastiques. On parlait de la pollution médicamenteuse, vous l'avez cité un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose qui est stable, ça ? Parce qu'on en entend beaucoup parler et je pense que ça fait peur à beaucoup de gens. Parce que ça peut avoir des effets sur la faune, sur les hommes bien sûr, mais aussi sur la faune, sur les poissons notamment.
Oui, alors il faut savoir que sur toutes les stations qui sont sur les 17 unités de pollution qui sont sur la métropole, toutes les stations traitent parfaitement tout ce qui peut être aussi, tout ce qui peut provenir des médicaments. On ne rejette pas dans la Garonne des eaux chargées qui pourraient poser des problèmes à la faune.
On en vient à ce nouveau service de l'eau qui est donc en fonction depuis le 1er janvier 2020, donc c'est tout récent finalement. Qu'est-ce qui a changé en fait par rapport au fonctionnement précédent, à l'organisation précédente ?
Alors, sur l'organisation précédente, il y avait un délégataire de service public, était Veolia. Grâce à la concurrence entre Suez et Veolia, on a pu obtenir un prix très conséquent, mais non seulement un prix très conséquent, mais une ambition très importante au niveau de l'environnement. Et un contrat est une obligation pour ces délégataires de réparer, de suivre un réseau et de l'améliorer de façon à ce que le résultat soit parfait au bout des 6 ans. Voilà. Et au bout des 12 ans de délégation, puisqu'on a fait un contrat sur 12 ans.
Alors, il y a deux opérateurs, en fait, maintenant, si j'ai bien compris. Il y en a un qui s'appelle Setom et l'autre Astéo. Quels sont leurs rôles respectifs?
Alors, Setom, c'est l'eau potable, c'est Veolia, c'est une entreprise qui appartient à Veolia. Et Astéo, c'est l'assainissement, et c'est une entreprise qui appartient à Suez. Le tout est chapeauté par Eau de Toulouse et par le cycle de l'eau de Toulouse Métropole.
Autre chose, j'ai vu qu'il y avait un contrôle citoyen des deux opérateurs. Qu'est-ce qu'on appelle un contrôle citoyen? Comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'il y a un comité, entre guillemets, de surveillance?
Oui, il y a un comité de surveillance qui vient étudier le rapport annuel qui est fait systématiquement, qui suit un petit peu le travail fait par cet homme et qui regarde si tout est parfait et si tout est conforme. Donc là, nous avons présenté il y a très peu de temps le rapport annuel 2019 et des associations d'administrés sont venues pour poser des questions.
Alors j'ai vu qu'il y a aussi un tarif harmonisé désormais, ce qui semble ne pas être le cas auparavant. Quand on dit tarif harmonisé, ça veut dire que c'est le même pour les 37 communes de la métropole?
C'est le même pour les 37 communes de la métropole depuis cette année. Ce n'était pas le cas l'année dernière, puisqu'on peut prendre un exemple simple qui est celui de ma commune. Nous avions un prix de l'eau qui tournait autour de 3,75 € de mémoire, et aujourd'hui il est à 2,91 €. Donc cette négociation pour passer en délégation de service public a été quand même particulièrement bénéfique pour beaucoup de communes.
Et puis il semblerait aussi que l'eau soit de meilleure qualité et que le contrôle ait été renforcé, le contrôle de la qualité de l'eau.
Alors ça, c'est le travail que nous sommes en train de mettre en place pour que le contrôle soit encore plus efficace et pour que l'eau soit encore meilleure que ce qu'elle était.
On va y venir aux travaux, aux études qui sont faites actuellement. Je voudrais qu'on dise un mot aussi sur la maison de l'eau.
Oui.
Parce que ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'elle propose comme service aux citoyens?
Ben, tout le suivi des factures, tous les problèmes que les citoyens peuvent avoir avec l'eau ou avec l'assainissement. Donc, une boutique, un site et rue Alsace-Lorraine qui est à l'écoute de tous les administrés et de tous les problèmes qu'ils peuvent soulever.
C'est-à-dire qu'on peut y aller pour poser toutes les questions qu'on souhaite, pour demander les renseignements qu'on souhaite.
Exactement, voilà.
La station de Ginestou, il y a une modernisation qui est en cours. Enfin, il y en avait déjà eu successivement des modernisations de cet outil, de cet équipement. Ouais. Mais il y en a une encore en cours. Il y a des travaux, il y a des études. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment et on devrait en savoir plus début 2021.
Alors oui, il y a déjà beaucoup de choses. Il y a une chose que l'on vient de mettre en place aujourd'hui qui est capitale, c'est la méthanisation. La méthanisation permet alors quelque chose d'énorme. Vous savez que les boues, ben après il faut les recycler quoi. Les boues sèches, ben elles sont épandues dans des champs. Ça procure des gènes parfois pour les habitants qui habitent près. Les odeurs, ceci, cela.
Nuisances olfactives, ça pendant longtemps.
Nuisances olfactives et tout.
C'est bien moins pire que ça n'était à une époque.
Exactement. Et on va s'améliorer encore. Donc cette méthanisation nous permet de réduire les boues de 50%, ce qui est quand même très, très important.
Dites,
il y aura 50% de boues en moins. Voilà. Ensuite, la méthanisation et le gaz qui est remis dans le circuit de GRDF nous apporte un revenu de 3,5 millions d'euros par an. Donc ça, c'est parfait.
C'est ce qu'on appelle le biogaz. Quand on dit méthanisation, c'est ce qu'on appelle le biogaz.
Exactement. Voilà. C'est le biogaz, donc un gaz bio.
Issu des eaux, des boues.
Issu des boues. Voilà. Donc ça, cela fonctionne depuis cet été. Ça monte en charge petit à petit. Le résultat est très positif. Nous aurons ensuite une usine à Ginestou qui sera énergie positive. C'est-à-dire qu'on produira plus d'énergie que ce qu'on en consommera.
Oui, on entend parler beaucoup là, de ces usines à énergie positive, sans qu'on sache toujours très bien de quoi ils retournent. En fait, c'est ça.
C'est
qu'entre l'énergie qu'elles consomment et l'énergie qu'elles produisent,
exactement.
On a une marge positive.
On a une marge positive, c'est exactement ça.
Il y a une chose, vous venez de parler des nuisances olfactives. Oui. Le but, c'est d'arriver à zéro odeur.
Oui.
On n'y est pas encore.
On n'y est pas encore.
Mais on devrait y arriver quand et comment surtout?
Alors, on devrait y arriver en 2024. Voilà, donc sur 2024, donc là on est en train de mettre en place, il y a plusieurs millions d'euros qui vont être investis dans ce sens, et progressivement on va aller vers ce zéro odeur, c'est le but. Alors il y a un deuxième, je vous parlais de boue tout à l'heure, justement cette méthanisation nous permet de supprimer des silos de stockage de boue, et ces silos de stockage de boue vont servir au compostage des végétaux, qui sont actuellement sur Ginestou stockés à l'extérieur. Donc on va aussi diminuer les odeurs, grâce à ce stockage dans les silos de boue. Voilà, donc on essaye.
Voilà. Alors, peut-être une question que les gens ne savent pas, et je pense à ceux qui vont se promener au bord de la Garonne, à Blagnac ou de l'autre côté de Blagnac, rive droite ou rive gauche, à hauteur de Blagnac, c'est là que les eaux de Ginestous sont rejetées dans la Garonne.
Oui.
Tout est rejeté là.
Tout est rejeté, oui, oui, absolument.
Je dis ça parce que lorsqu'on promène, on voit une buse au milieu de la Garonne. Et en fait, c'est ça.
Oui, oui, c'est ça. Alors, il y a un petit élément supplémentaire qui est important à savoir, c'est que pour amener de l'eau potable aux habitants de Toulouse, on prélève 5 mètres cubes seconde d'eau dans la Garonne, mais on en rejette 4 mètres cubes épurés.
Donc,
c'est pas la consommation d'eau des habitants qui pose problème sur la sécheresse.
Oui, sur le fait que la Garonne, les étiages de Garonne sont de plus en plus bas d'année en année. Malheureusement, ça c'est bien.
Et pour revenir sur le zéro odeur, les investissements, on va investir 8 millions d'euros. Les travaux sont en cours et ils seront terminés normalement fin 2023.
Alors, il y a une autre chose très intéressante en ce moment, en ces temps d'épidémie et de crise sanitaire, c'est qu'il y a des études en cours qui permettent de mesurer le degré de présence du virus de la Covid-19 dans les eaux usées, ce qui permettrait d'évaluer le degré de contamination des habitants de la métropole et donc éventuellement d'anticiper la survenue d'un pic épidémique et sa décrue.
Alors, c'est un programme de recherche nationale qui s'appelle OBEPINE, qui a été lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, depuis le mois de mars, on fait des études, on fait des prélèvements toutes les semaines sur les eaux usées de Ginestous et sur 150 stations d'épuration en France. Donc, c'est une étude. Mais effectivement, on s'est rendu compte, par exemple, pour ce deuxième confinement, que nous avions des traces de Covid dans les boues à partir du fin août, début septembre. Et le confinement est arrivé après. Donc, si effectivement tout cela, mais c'est donc le ministère qui va annoncer les résultats de cette recherche, donc je ne vais pas vous en dire trop, mais effectivement, ceci permettrait de façon précoce, avant, on s'est rendu compte que le Covid était présent dans ces eaux usées avant que les symptômes de la maladie se développent. Et ceci entre 10 et 15 jours avant. Donc ce serait important parce que ça permettrait, en allant rechercher, en allant faisant des prélèvements sur tous les circuits qui arrivent à Ginestous, on pourrait éventuellement, on peut imaginer...
Anticiper
les clusters ou dire voilà, il y a tel quartier ou tel quartier ou telle commune sur lequel il y a du Covid et donc effectivement pour faire, ça peut apporter quelque chose de très important sur la préparation
Compris au moment où justement l'épidémie va décroître, c'est-à-dire qu'on peut anticiper le moment où on pourra éventuellement, par exemple, desserrer les taux, si je puis dire, des mesures sanitaires, des mesures de restriction au moment d'un confinement.
Alors oui, sauf qu'il y a un recul plus important. Actuellement, alors que cela décroît, par exemple, on ne le note pas dans la station.
Ah oui.
Alors est-ce que dans ce sens, c'est aussi efficace ?
Ça ne marche pas forcément dans ce sens-là. Autre chose, la hausse de la population dans la métropole, on en parle souvent et on sait que c'est un paramètre très important dans toutes les décisions que prennent les élus aujourd'hui, dans le domaine des transports, dans le domaine de la construction d'habitats, de logements, d'équipements, de manière générale. Vous nous dites qu'aujourd'hui, on peut retraiter les eaux usées correspondant à une population d'1 million 200 000 habitants dans la métropole. Et là, on ne parle que de la métropole. Ce qui voudrait dire qu'on
traite les bouts de 1 200 000 équivalents habitants.
Mais est-ce qu'à terme, si la progression continue, il ne faudra pas envisager une autre extension de Ginestous?
C'est très possible. Le site Ginestous, c'est de 20 hectares, je crois. Donc, il y a
encore de la place.
Il y a encore de la place pour ça. Mais aujourd'hui, on est à 750 000 équivalents habitants jour traités. La station peut en accueillir 950 000. Ça laisse quand même une marge considérable. Et il y a certainement des solutions pour la rendre encore plus efficace.
Ah voilà, ça c'est une question aussi que j'allais vous poser. Le fait de rendre l'équipement de plus en plus efficace, les services de plus en plus efficaces, est-ce que ça peut indiquer que, à terme, dans les années à venir, le coût du retraitement des eaux usées pourrait baisser, même si la quantité de population augmente dans la métropole?
Alors, je n'ai pas une réponse exacte à ça, je peux vous donner juste une appréciation personnelle. Je pense que l'exigence de traitement des eaux usées va être de plus en plus importante. Aujourd'hui, on traite...
Par rapport aux critères environnementaux.
Donc, on va nous obliger à avoir des stations de plus en plus efficaces et donc les investissements vont être conséquents pour arriver à ça. Donc, à mon avis, non, mais comme on a l'eau la moins chère de France, ça nous laisse quand même une marge.
Alors, si on part maintenant à un citoyen lambda, comme vous, comme moi, parce que nous sommes tous des citoyens, quelles sont les bonnes pratiques? Quel rôle on peut jouer en tant que citoyen pour que les eaux soient de moins en moins polluées, de moins en moins sales, et donc essayer de faire en sorte que ça coûte de moins en moins cher de retraiter l'eau?
Ah ben déjà, attention à tout ce qu'on peut rejeter dans ces toilettes. Hein. Je veux dire, quand on verse un fond de peinture ou des fonds de produits chimiques ou des serviettes qui posent des problèmes considérables sur les réseaux.
Parce que ça bouche.
Voilà, ça bouche. Donc effectivement, il faut qu'il y ait, et on va communiquer dans ce sens un maximum pour que chacun fasse un petit effort et pour qu'on arrive à gérer ces problèmes-là. Malheureusement, voilà.
Parce que je pensais aux médicaments. Bon, ouais. On peut penser que ça passe dans les urines, évidemment. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens aussi qui jettent des médicaments
Très certainement. Et c'est sûr.
Il faut qu'on arrive tous à comprendre que l'eau, non seulement c'est un bien précieux, mais qui nous appartient à tous. Ouais. Et qu'on est tous aussi acteurs.
On est tous acteurs, mais vous savez, j'habite une petite commune de campagne et quand je longe mes fossés, je me rends compte qu'il y a dans les fossés beaucoup de choses, des bouteilles, des sacs poubelles, donc je ne sais pas quelles sont les armes pour lutter contre ça, quoi. Mais avant qu'il y ait une prise de conscience.
On voit aussi ce qu'on trouve dans la Garonne.
Particulière, hein, ce qu'on trouve dans la Garonne. Donc imaginez ce qu'on peut trouver dans nos réseaux d'assainissement. Quoi. Donc oui, il y a un gros travail de communication à faire là-dessus, mais je pense qu'il y a des gens qui en ont rien à faire et qui continuent à jeter n'importe où, n'importe quoi.
Ouais, encore un travail d'éducation, non seulement de communication, mais aussi d'éducation à faire. Mais je pense que les jeunes générations sont sans doute beaucoup plus sensibilisées que nous, on aura pu l'être.
C'est vrai. Je pense effectivement qu'il y a une communication à faire au niveau des écoles, très importante. C'est une idée qu'il faudra développer certainement avec le cycle de l'eau, mais c'est à partir de là. Je crois que les enfants sont porteurs d'un message qui est souvent suivi par les parents.
Eh bien, c'est déjà la fin de cette émission où nous aurons appris beaucoup de choses. Merci d'en avoir été l'invité, Robert Medina, et de nous avoir dispensé toutes ces explications et ces informations sur le fonctionnement et les missions du nouveau service de l'eau de Toulouse Métropole. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, très instructif, et je ne doute pas que ça sera aussi le cas de ceux qui écoutent cette émission. Au-delà de l'aspect retraitement et assainissement des eaux usées, qui est essentiel, bien sûr, on a pu voir que les stations d'épuration peuvent jouer aussi un rôle de vigie, de sentinelle dans la prévention et la gestion des épidémies. Une affaire à suivre. Pour en savoir plus et avoir d'autres détails sur notre sujet du jour, je vous invite à consulter le site de Toulouse Métropole, www.toulouse-métropole.fr, à la catégorie mission, rubrique eau, assainissement. Vous pouvez également vous rendre à la maison de l'eau, 3 rue d'Alsace-Lorraine à Toulouse, ou vous connecter au site web www.eau-de-toulouse-métropole.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropole et vous. Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.